How are you doing today?
Comment allez-vous ce matin, aujourd'hui?
Vous allez bien?
Joyeux Noël. You're fine? Merry Christmas? Tout ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? De célébrer le vrai message de ce qu'est vraiment Noël. C'est incroyable. Est-ce que vous avez fait vos devoirs pour cette semaine? Tout le monde regarde par terre. Baisse les yeux. Une minute ou deux pour au moins trois jours dans votre semaine d'être juste calme dans la présence de Dieu, d'être silencieux. Non? Est-ce que des choses se sont produites? Je sais que certains d'entre vous se sont endormis en faisant ça. Mais continuez d'essayer. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu va faire si vous apprenez à rester juste calme, silencieux et qu'on devient meilleur. Pour un peu mariner, pour se baigner dans les choses de Dieu. Soyez silencieux, immobile, et laissez Dieu mariner et travailler en nous. Et ça fait vraiment quelque chose. On peut tout le temps grandir dans cette pratique-là, d'écouter, d'être à l'écoute de Dieu. Alors aidons-nous les uns les autres à faire cela, ok? Je vous ai vu tous promettre la semaine dernière, vous avez dit oui, ok? Donc, essayez-le encore une fois cette semaine et voyons ce qui se passe. On en reparlera la semaine prochaine, ok? Nous avons plein de choses qui se passent aujourd'hui, c'est toujours comme ça à Noël, c'est merveilleux. Alors, je vais tout de suite commencer. Commençons par un passage, mais avant, on va prier, ok? Est-ce que vous ouvrez vos cœurs avec moi et demandons au Seigneur de parler à chacun de nos cœurs? Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es ici aujourd'hui. Tu étais ici avant que nous soyons ici. Tu as toujours été là. Et j'espère que nous pouvons dire, chacun d'entre nous pouvons dire que tu vis dans nos cœurs, dans notre cœur, dans notre vie. Et nous te demandons aujourd'hui, maintenant, que tu prennes ta parole et que tu oignes notre cœur avec cette parole et que tu nous apprennes ce que nous avons besoin de savoir, que tu nous donnes ta grâce pour nous aider à le vivre, pour que ça devienne vraiment une partie intégrante de notre vie. Alors merci, parce qu'on peut faire cela grâce à toi et à ton amour incroyable pour nous. Nous te remercions dans ton nom, dans ton grand nom. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ok, nous allons aller dans un passage dans Matthieu chapitre 1, où on va voir le point culminant, c'est on va se concentrer sur Joseph et Marie et ce qui se passait dans leur vie, particulièrement Joseph. J'ai beaucoup de respect pour Joseph. J'ai vraiment hâte de le rencontrer au paradis.
We will talk about microphones and all those things too.
Pour moi, ça marche de nouveau plus.
And how we don't need them anymore. Maybe I don't today. Are we okay, David?
Ouais, pour personne. Okay.
Sure. Check me out, doctor. C'est bon? What is my voice doing to this microphone? Can you hear me all right? All right.
I can't hear you. Let's try that. Oh, it's okay. It's back on. C'est bon.
Read the scripture with me. Follow with me as I read it.
Pendant que je lis, ok? Matthieu.
This is how the birth of Jesus Christ.
Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David.
His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together.
Verset 18. Voici ce qu'est la manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, et comment vous vous sentiriez si un ange vous contactait tout d'un coup dans un rêve, hein? Ce serait quelque chose, non? Ce serait incroyable. Et donc l'ange lui dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quoi? Qu'est-ce que... Quel nom? Jésus. Et quel nom? Yeshua. Et toutes les versions de Jésus ou Yeshua. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph, et ça j'aime beaucoup, on n'a aucune indication qu'il est contre-argumenté avec l'ange, qu'il ait discuté avec l'ange. Non, non, il n'a rien dit. Il a juste écouté et accepté. Immédiatement, il a obéi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui. Et ça, c'était quelque chose. C'était pas très très bon à l'époque. Hein. Ça lui a donné une très mauvaise réputation parce qu'il a pris Marie alors qu'ils n'étaient pas mariés. Mais il avait entendu de Dieu que c'était ce qu'il devait faire. Est-ce que nous, on est prêts à obéir à Dieu, quelle que soit la position dans laquelle ça nous met? Donc il s'est levé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Et je voudrais qu'on se concentre, qu'on diverge un petit peu de la semaine dernière, mais qu'on se concentre sur le verset 23 de ce passage, quand l'ange citait Ésaïe chapitre 7, où il était dit, Ésaïe a dit, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Alors, pourquoi est-ce que ce nom Emmanuel est tellement important? Pourquoi est-ce que c'est un nom qui change la vie? Je pense, avant que nous soyons... Donc, nous ayons fini ce matin, regardez-moi dans les yeux. Je pense qu'avant que nous ayons fini ce matin, vous serez une personne différente. Vous serez une autre personne. Est-ce que vous croyez ça avec moi? Moi, je crois que la parole de Dieu est puissante. Si votre cœur est juste un tout petit peu ouvert et que mon cœur est un tout petit peu ouvert, le Saint-Esprit va faire des choses puissantes. Et nous entendrons ce que nous avons besoin d'entendre. Vous êtes prêts? Le nom Emmanuel nous est familier, mais j'espère que je vais pouvoir ajouter quelque chose à ce nom ce matin pour encourager nos cœurs et pour nous challenger aussi. Vous êtes prêts? Ok. Regardons ce nom qui va vous changer. Regardons de plus près. Nous voyons au moins trois choses ici. Et tout ce que je vais parler, ce sont trois choses. Tous les pasteurs doivent avoir trois points, de toute façon. C'est une coïncidence, mais c'est toujours trois. Hein? Ce matin, c'est trois points qu'on va développer. Première chose, il y a quelque chose de crucial. Nous ne pouvons pas oublier que s'il n'était pas Emmanuel, s'il n'avait pas été fait de chair pour nous, il n'aurait pas pu être le sauveur du monde. Il n'aurait pas pu apporter le salut du péché. Nous serions maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, nous serions encore maintenant morts dans notre péché. Dites-le, mort dans mon péché, dites-le. Et que ça marine un petit peu. C'est quelque chose de très puissant. Mais grâce à Emmanuel, ce n'est plus vrai. J'espère que chacun d'entre vous peut dire, je suis en vie. Grâce à Jésus, vous n'êtes plus mort dans votre péché grâce à ce que Emmanuel a fait pour vous et pour moi.
Donc Emmanuel, le sauveur du monde, mais il y a quelque chose d'autre. Grâce à son amour pour nous, il nous a vraiment donné trois choses. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'il a fait pour nous. Et comment il l'a fait ? On va tout mettre ensemble. Vous voyez, premièrement, toute la nature, tout ce qui est autour de nous, à travers la nature, on voit quelque chose à propos de Dieu. On voit Dieu qui est au-dessus de nous, qui est au-delà de nous, qui nous transcende. Nous ne sommes pas Dieu. Hein ? Amen. Nous ne sommes pas Dieu. Il est tellement plus grand, plus au-delà de nous. On le voit tout autour de nous. Il y a des messages partout. Mais à travers la loi que Moïse a reçue, on voit que Dieu est contre nous. Mais je suis heureux que Dieu ne se soit pas arrêté là, pas vous ? Parce qu'il est contre nous dans la loi, parce qu'il nous dit qu'on est coupable du péché. Mais par la grâce de Dieu, la loi est juste là pour nous préparer, pour nous aider à voir vraiment ce que la nature est, notre vraie nature. Donc Dieu nous a donné sa loi pour une bonne chose. Mais à travers Emmanuel, la bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'à travers Emmanuel, God est pour nous, avec nous et pour nous, grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que le problème du péché n'est plus là. Ce n'est pas incroyable, merveilleux qu'il a fait ça pour nous. Il nous a tellement aimés. Et on voit encore quelque chose d'autre. Grâce à Emmanuel, Dieu nous est apporté et nous sommes apportés à Dieu. Je répète, Dieu est apporté vers nous et nous sommes apportés vers lui. Il apporte sa restauration, sa guérison, sa nouvelle vie pour notre vie, notre âme, notre esprit. Mais également, à travers Emmanuel, nous avons accès à Dieu. Il n'y a plus de distance. Nous pouvons être proches, nous pouvons avoir une relation personnelle, quotidienne, une relation qui grandit avec lui, avec un Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Je laisse ça mariner un peu. Que vraiment ça puisse s'imprégner en vous, cette idée. J'ai eu le privilège il y a quelques années, je ne vous dirai pas il y a combien d'années, parce que sinon vous allez comprendre combien je suis vieux, mais avec ma classe de séminaire, avec un groupe d'étudiants en séminaire, nous avons pu aller visiter Israël, Jordanie et l'Égypte. Et sur le chemin du retour, nous avons pu nous arrêter à Athènes et à Rome. C'était vraiment des visites de un jour et demi seulement. Vous imaginez voir Athènes en moins de deux jours et Rome en moins de deux jours. On avait un jour et demi par ville, on n'a pas vu grand-chose, mais une des choses qui était vraiment spéciale pour moi, c'était que nous avons pu visiter le Vatican. Et même s'il y avait une longue queue, il a fallu attendre plus d'une heure, ça valait vraiment la peine. Parce que nous avons pu voir
quoi ?
Michelangelo, la peinture de Michel-Ange et Buonarroti, les deux peintres, la fresque merveilleuse de la chapelle Sixtine. Donc là, on ne va pas faire une leçon d'art et d'histoire ce matin, mais on va quand même l'analyser un petit peu pour nous aider à comprendre Emmanuel. Si vous regardez vraiment bien à cette peinture, vous voyez que le personnage de Dieu est vraiment tout tendu vers l'homme. Et il y a beaucoup d'énergie dans cette attitude, dans ce mouvement. Il tourne son corps pour... Et son corps est tourné vers l'homme, ses yeux, son regard est fixé sur l'homme, son bras est tendu vers l'homme, son index également est tendu en direction de l'homme. Chaque muscle est tendu avec anticipation. Les théologiens disent qu'avant cette peinture, à l'époque, on représentait Dieu qui était sur la terre, debout, qui était debout sur la terre. Mais ici, Dieu va vers Adam d'une manière forte sur un nuage. Le nuage, c'est le chariot du paradis. Il est propulsé par des anges. Qui a besoin d'une Peugeot maintenant, alors on a des anges pour se propulser?
Et
les anges n'ont pas l'air très athlétiques, mais à l'époque, ils étaient quand même le symbole du pouvoir et de la vitesse. C'est comme si même au milieu de toute cette création, on voit Dieu qui est impatient, qui a un désir impatient de fermer ce fossé entre lui et l'homme. Et il ne peut pas attendre. Sa main vient à un cheveu de toucher l'homme. La peinture est traditionnellement appelée la création d'Adam, mais il y en a qui disent que ça devrait être appelé. Ça devrait être appelé le couronnement d'Adam en quelque sens. Parce que là, Adam, on lui offre la vie avec Dieu. C'est pas la vie de Dieu, donc c'est pas la création. Il a déjà reçu la vie de Dieu, il est déjà vivant. Maintenant, on dirait qu'on lui offre la vie avec Dieu. Vous voyez ? Dieu nous est apporté et nous sommes apportés à lui dans cette image. On voit la détermination. Mais Dieu, il est là vraiment à une toute petite distance, à une fraction de centimètre de l'homme. Et il s'arrête pour que Adam ait le choix, une opportunité de choisir. Dieu s'arrête à quelques millimètres et Adam a le choix. Il attend que Adam fasse son mouvement, fasse le pas. Et si votre histoire de vie est parallèle à celle-ci, vous comprenez. Par contre, Adam est difficile à comprendre sur cette image. Son bras est seulement partiellement tendu vers Adam, mais lui, il a l'air vraiment tranquille ou en train de se relaxer. La vie est belle. Et là, vraiment relax. Comme s'il n'avait aucun intérêt de faire cette connexion avec Dieu. Peut-être qu'il pense, eh bien, Dieu a fait tout ce trajet, il va sûrement faire le reste du trajet. Il va annuler cette distance entre nous. Et peut-être qu'il s'en fiche. Peut-être qu'il s'en fiche de toucher son Dieu, son Créateur. Peut-être. Peut-être qu'il n'a pas la force, mais tout ce qu'il a à faire, c'est de lever le petit doigt. Lever le doigt. C'est tout. Combien d'années cela a pris à Michel-Ange pour faire cette peinture? 4 ans. 4 longues années. Moi, j'ai du mal à me concentrer, faire un dessin quand ça me prend même pas une heure. Ça lui a pris 4 ans. L'exigence physique, vous imaginez, en train d'être debout sur un tabouret, sur un escalier qui était très très haut, et c'est une peinture qui est au plafond. Donc c'est toujours au-dessus de sa tête que ça se passe. Il doit se plier en arrière pour peindre jour après jour. Et il doit utiliser toutes sortes d'énergie dans une position où il n'est pas habitué pour peindre. Et vous faites ça pendant 4 ans. Michel-Ange a écrit quelques mots à ce propos. Il a dit : j'ai ma barbe qui est pointée vers le plafond, ma tête est penchée en arrière, mon torse remonte en avant, mon pinceau coule sur ma face, sur mon visage et me fait ressembler à un pavé décoré. Je suis tordu comme un arc syrien, tout le temps tordu pour faire cette peinture, parce qu'il a été forcé de regarder en l'air pendant tellement d'années, pendant 4 ans. En fait, à un moment donné, s'il voulait lire une lettre ou lire un livre, il devait le porter au-dessus de sa tête pour qu'il puisse le voir, parce qu'il avait pris, son corps avait pris l'habitude de cette position. Une nuit, il était tellement découragé par ce projet et par son travail, il a écrit dans son journal ces mots, quatre mots. Je ne suis pas un peintre. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait abandonné à ce moment-là, s'il avait laissé tomber? Peut-être que certains d'entre nous avons besoin d'entendre ça ce matin. Et là, on se dit, ça fait combien de temps qu'on observe cette peinture, cette fresque? Presque 500 ans, cette fresque, elle nous parle, elle nous appelle à voir ce que Dieu, le désir de Dieu d'être avec ceux qu'il a créés, d'être avec les humains qu'il a fait à sa propre image. Peut-être que Michel-Ange n'était pas seul dans son travail, après tout. Peut-être que le Dieu qui était tellement proche de Adam était avec Michel-Ange aussi. Au travail, dans son esprit, dans son œil, dans ses pinceaux. Laissez ça mariner un petit peu. À travers Emmanuel, nous voyons Dieu qui est à notre portée et nous qui sommes portés vers lui. Alors, vous voyez quel est ce que le cœur de Dieu veut nous dire dans tout cela? Deux choses qui vont nous transformer, je le crois, ce matin. Premièrement, Dieu dit, Sacha, je suis plus près de toi que tu ne le penses. Dites-le à vous-même, il est plus proche de moi que ce que je pense. Il veut que nous comprenions cela. Il n'est jamais plus loin qu'une prière.
Et
même alors que nous parlons maintenant, il est accessible. On peut juste tendre le doigt et le toucher. Nous connecter à lui. Ce n'est pas difficile. Il n'est jamais plus loin qu'à une prière. À chaque instant, les Écritures nous parlent de lui, de tout ce qu'il nous dit. Dans le psaume 19, le paradis déclare la gloire de Dieu, le ciel proclame son travail, le travail de sa main. Donc, quand on est loin des lumières de Strasbourg, on voit les étoiles, elles parlent de Dieu. Elle crie la présence de Dieu, la création de Dieu. Il y a plein de choses incroyables qu'on oublie, qu'on manque. On passe à côté sans les voir. Qui crie que Dieu est là. Dieu utilise des choses comme des buissons ardents pour parler. Vous avez déjà vu un buisson ardent qui ne se consume pas? Certains en ont vu. Par exemple, Moïse. Dieu utilise même un âne qui parle. Dans la Bible, il utilise des tempêtes, des tremblements de terre, des rêves, même parfois une petite voix. Et toutes ces choses, il utilise pour nous parler. Il est plus proche que tu ne le crois. Dites ça à la personne à côté de vous, il est plus proche que tu ne le crois. Maintenant, encore une chose. Est-ce que vous avez vu ça dans votre étude des Écritures alors que vous commencez à connaître Dieu de mieux en mieux? La Bible n'est pas premièrement à propos des gens, des hommes qui essayent d'être avec Dieu. Ça ne parle pas surtout du désir des gens d'être avec Dieu. La Bible parle du grand désir de Dieu d'être avec les humains. Et ça fait une grande différence. Est-ce que vous avez remarqué cela? Dieu nous dit, je veux être avec toi. Est-ce que c'est vrai en France aussi, comme ça l'est aux États-Unis? Est-ce que vous, des fois, vous en avez marre des grands-parents qui se vantent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et qui ont tout le temps des photos dans leur portefeuille pour vous montrer, ah, dès qu'on leur demande dès qu'on leur parle de leurs petits-enfants, ah ouais, je vais vous montrer les photos. Est-ce que c'est à tel point en France comme aux États-Unis? Ah, c'est pire. Non, je ne pense pas que ce soit pire qu'aux États-Unis. Ça arrive tout le temps, c'est incroyable. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui se vante à propos de leur fils, de leur famille? Vous imaginez? Que quelqu'un qui se vante de son fils Joel, de leur femme Allison et de leurs beaux petits-enfants? Ce sont les siens, évidemment. Non, ça n'arrive pas, ça. Est-ce que moi, je serais fier de ma fille, Mega, et de son mari, Keith? Et de Anna et Nat, est-ce que j'aurais envie de mentionner leur nom à certains et de leur dire, voilà, ils sont trop bien, ils sont géniaux. Non, je ne suis pas ce type de grand-père. Non. Est-ce que Cathy passerait tellement de temps à parler de combien ses quatre petits-enfants sont spéciaux et quel futur incroyable ils ont devant eux parce que Dieu est dans leur vie? De plus en plus, est-ce qu'elle ferait ça? Non.
You know Kathy better than
that. Vous connaissez Cathy mieux que ça, hein?
Absolutely.
Bien sûr.
And certainly we would never do that.
Et certainement, nous ne ferions jamais ça à l'église. Hein, non.
Never.
Les grands-parents sont des gens différents, non? Kathy et moi, quand nous étions plus jeunes, nous disions, nous rigolions. Ça veut dire quoi, chuckle? Nous rigolions, je dirais. Nous plaisantions. Nous disions, ouais, c'est amusant. Mais maintenant que nous sommes les grands-parents, et nous sommes repentis d'avoir rigolé à l'époque des grands-parents. Et bien sûr, les grands-parents, dans leur enthousiasme, ont toujours des photos sur leur fond d'écran. Non, on ne va pas vous faire montrer les photos, mais on a toujours des photos de nos petits-enfants sur notre fond d'écran d'ordinateur. Pourquoi les grands-parents sont-ils, et les parents d'ailleurs, tellement préoccupés avec leurs enfants et leurs petits-enfants? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que pour des millions d'enfants, c'est parce qu'ils font de grandes choses? Et bien sûr, nos enfants à nous, ils sont encore meilleurs, ils font plus, encore plus, ils sont encore meilleurs que les autres. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, évidemment. Les grands-parents sont tellement préoccupés avec leurs enfants et petits-enfants parce qu'ils les voient à travers les yeux d'un parent, d'un père. Et ça change les choses.
Donc,
nous pourrons voler sur notre chariot divin, sur les nuages. Nous ferons ça dès que nous pourrons. Nous sommes déterminés à être ensemble avec ces enfants, ces petits-enfants. Mais on ne veut pas les aimer de loin. On veut les aimer de près. On veut être avec eux. Alors pensez-y. Je suis un enfant. Un enfant qui est sur le fond d'écran de Dieu. Et toi aussi. Tu vois tes initiales là-haut? Tu es là quelque part. Paul a vu son P qui est là. J'ai juste pas eu assez d'images pour les mettre là-haut, mais vous comprenez l'image, l'idée. Ça, c'est le fond d'écran de Dieu et vous êtes dessus. Tu es dessus. Est-ce que ça change quelque chose? Laissez ça mariner un peu. Imprégnez-vous de cette idée. Dites-vous ça à vous-même. Je suis un enfant sur le fond d'écran de Dieu. Les plus petits détails de nos vies ne vieillissent jamais pour lui. Il n'en a jamais assez, des détails de nos vies. Il est rempli d'émerveillement alors que nous nous bafouillons, alors que nous faisons des pas parfois maladroits. Il prend soin de nous. Il voit chaque chose à travers les yeux d'un Père aimant. Et Dieu a même choisi nos images au lieu de celles des anges. Vous savez ça? Vous ne saviez pas ça? On peut voir les anges qui se regardent en levant les yeux en se disant « Ah, ça y est, plus d'images de ces enfants. » Et Dieu leur dit « Regardez mes enfants, regardez. » Oh là là, les anges sont là, oh là là, c'est pas vrai, il faut que j'aille voir là-bas si j'y suis. Encore des images, encore des photos de ces enfants. Mais c'est ça, notre Père. L'histoire de la Bible est d'abord une histoire, l'histoire de Dieu. C'est Dieu. L'histoire d'un Père qui se précipite à travers les nuages pour être à la maison avec ses enfants et pour amener d'autres enfants dans sa famille. C'est ça qu'il est. Rappelez-vous la promesse centrale des Écritures, ce n'est pas « Je vous pardonne, je te pardonne », même si c'est présent. La promesse centrale de la Bible, c'est « Je serai avec toi ». Hein? Mariner un peu. Alors voilà, c'est ça Jésus, c'est ça Emmanuel. Dieu qui a touché Adam à travers Emmanuel. Et c'est ça, Noël. Il nous dit, je veux vraiment être avec toi et proche de toi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Priez avec moi. Et je veux nous encourager ce matin, alors que nous baissons la tête en prière, à tendre le bras, à essayer de toucher Jésus, Emmanuel, où que vous soyez, où qu'en soit votre cœur. Souvenez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de lever un peu le doigt. Il est plus proche que vous ne le pensez. Et si vous le faites, vous trouverez une nouvelle rencontre avec Emmanuel. Si vous ne le connaissez pas et que tout ça est nouveau pour vous et que vous n'avez jamais vraiment expérimenté son toucher, je vous encourage maintenant à tendre le doigt, maintenant, et de le laisser vous toucher et de changer votre vie, vous donner une nouvelle vie, un nouvel espoir, un nouveau départ. Et plein de choses éternelles, merveilleuses qu'il fera pour vous. Vous pouvez devenir son disciple et le suivre. Et si vous êtes déjà un disciple de Christ et que vous sentez que vous avez envie d'être plus proche de lui, que vous voulez vivre une vie plus pour lui, alors levez votre doigt également et dites, Seigneur, je ne veux pas perdre le contact avec toi. Je veux que tu m'emmènes plus loin avec toi. C'est tout ce que vous avez à faire. Levez le doigt. Et je te remercie, Emmanuel, parce que tu es vraiment venu pour être avec nous. Et tu as tout rendu possible pour que nous puissions vraiment être proches de toi. Merci.